Directeur joueur Radio Insolite, direction notre capitale olympique. Alors, c'est pas Paris, c'est Albertville, parce que là, j'ai la chance d'accueillir ce matin un monsieur qui a pratiqué le grand bivouac. Le grand bivouac, c'est un événement important, puisque c'est une rencontre où vous faites le tour du monde sans avoir à bouger. Et là, avec Sébastien... Alors, en plus, Sébastien, bonjour, au fait.
Bonjour.
J'ai un petit souci, je suis censé te présenter, mais moi, d'après les infos que j'ai, tu es chanteur et musicien.
C'est pas le même, absolument.
Ça s'écrit pile poil de la même manière.
Ça s'écrit pile poil de la même manière, et il y a même un autre réalisateur qui s'appelle Sébastien Lefebvre qui avait quelques choses en ligne, et puis un autre éclairagiste qui s'appelle Dordonnet. Voilà, on pourrait monter un club de Sébastien Lefebvre.
Bah, tel quel, toi.
Je suis Sébastien Lefebvre, je suis réalisateur de documentaires et je réalise aussi beaucoup de captations et de créations en musique live.
Qu'est-ce qui t'a fait tomber dedans quand t'étais petit ?
Dans la réalisation ?
Oui.
La réalisation, je saurais pas dire, c'est venu assez tôt, j'étais au collège et je crois que j'étais fasciné, je crois que ça a commencé par les effets spéciaux, j'étais fasciné par les effets visuels spéciaux, et assez rapidement ça s'est vraiment élargi, et j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer de raconter des histoires, et puis les outils qui me correspondaient c'était faire des images, et après voilà, donc j'ai fait un bac avec une option cinéma, et puis je suis rentré en BTS après, et j'ai d'abord eu un parcours dans l'image, puisque je prenais beaucoup de plaisir à raconter par l'image, et d'ailleurs c'est ça aussi je pense qui m'a amené au documentaire, c'est vraiment une écriture par l'image sur le moment même, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Alors, j'aime bien ta notion de raconter par l'image, je trouve ça très joli.
Ben oui, il y a des gens qui ont la chance d'avoir une plume incroyable, et moi je crois que mon outil c'est ça, c'est l'image.
C'est-à-dire que c'est plus facile de raconter par l'image que d'en faire un film traditionnel ?
C'est plus facile pour moi d'exprimer des choses en me mettant à un endroit et en filmant et en mettant en forme pour être le plus efficace et fidèle possible que de partir d'une feuille, d'une plume et des mots. Voilà, les mots sont moins ma matière première que les images.
D'accord. Comme je disais, tu as participé officiel au Grand Bivouac à Albertville, tu as eu le prix du public. Et puis alors, depuis 2023, si je devais lister tous les prix ou tous les temps forts auxquels tu as participé, il me faudrait carrément plus d'une demi-heure. Hein.
Peut-être pas quand même, mais c'est vrai que le film a eu une vie vraiment organique et ça s'est fait vraiment naturellement de festival en festival où des personnes avaient vu le film en festival et avaient envie de le programmer ou avaient pu voir le film en avant-première. Enfin, c'est vraiment ça s'est fait vraiment par des gens qui avaient vu le film. On n'a pas postulé à 1 million de festivals, donc ça s'est vraiment fait naturellement et c'est super gratifiant quand ça se passe comme ça.
Alors, ce qui est original, c'est que pour ce film qui s'appelle La Xigane de Lord Stanley, tu as quand même tourné pendant 8 ans.
Alors, oui et non. Moi, je connais la compagnie depuis 25 ans. Donc, en fait, je les accompagne avec mes outils. Donc, je les photographie et je les filme, principalement lors des représentations pour faire un petit peu leur matériel de communication. Mais sur des moments vraiment ponctuels comme ça. Et on s'est pas dit au tout début, je vais les suivre pendant 8 ans pour raconter l'histoire incroyable qu'on ignorait, puisqu'on savait pas l'histoire qu'allait se créer avec la Tzigane. C'est a posteriori, une fois que l'aventure était finie, que je me suis dit avec la compagnie, faut vraiment qu'on raconte cette histoire. Et puis aussi, moi j'avais aussi envie de raconter le travail de la compagnie parce que c'est une compagnie qui est vraiment multiple et j'avais envie de la raconter dans sa globalité à travers cette aventure spécifique de la Tzigane et de cette troupe d'enfants. Donc en fait, c'est a posteriori où je suis allé chercher plein d'images, les miennes, mais pas que. Dans le film, il y a beaucoup d'images d'autres personnes qui avaient fait des reportages ou des sujets, comme Jean-Pierre Lifranet, par exemple, qui avait aussi suivi Tamer Antong à une période, comme des images de gens de la compagnie qui avaient filmé quelques petits moments pour faire des crowdfunding, notamment pour le départ en Slovaquie, ou des gens qui étaient là à certains moments où moi je n'y étais pas. Et donc vraiment, je suis allé chercher toutes ces images, et c'est vraiment un film de couture et de montage a posteriori.
Un film à message assez important étant le fait que bah, il parle de l'exclusion, du racisme, et bah, c'est d'actualité.
C'est malheureusement toujours d'actualité et plus que jamais, oui.
Et c'est passé sans problème. Les enfants t'ont tout de suite accueilli, ils ont tout de suite accepté quand même de passer devant la caméra.
Absolument. Bah, faut dire aussi que comme je suis vraiment présent depuis 25 ans sur des représentations, sur des moments clés, ils me connaissent bien. Et puis, je pense que j'ai déjà un naturel assez discret et assez, voilà. Donc, en fait, je pense que je sais me rendre invisible. Et puis, la caméra n'est plus une question à partir du moment où ils y sont habitués, parce que je suis là vraiment régulièrement. Et même, il y a des moments où, dans le film, où ils m'ont dit, mais en fait, on se souvient pas du tout que t'es filmé ce moment-là, parce que bah, je deviens un peu invisible, effectivement. C'est un peu le travail aussi du documentaire, d'être présent sans être visible.
Ouais, mais ce qui m'a surpris, c'est que je me suis dit, à un moment donné, ils sont très très naturels. Ils lisent pas un texte, ils sont eux-mêmes, quoi. Et ça, je trouve ça
Ouais.
assez intéressant quand même.
Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu le luxe un petit peu du long terme, c'est-à-dire que d'être là très souvent, d'être là longtemps, d'être là au bout. C'est sûr que les premiers moments, il y a toujours ce petit regard caméra, ce petit coucou, ce petit un peu je me mets en scène. Et assez rapidement, bah, au bout d'un moment, c'est devenu un élément du décor. C'est devenu comme il y a des metteurs en scène, il y a des gens pour la technique, il y a des gens qui font répéter, bah il y a une caméra, et c'est devenu normal. Donc en fait, ils oublient complètement. Et c'est là où ça devient intéressant.
D'accord. La compagnie, alors j'adore le nom de la compagnie, si je puis me permettre, qui s'appelle Ta mère en tongs. Alors, petit
Oui.
détail, ça s'écrit tout collé, c'est pas du tout ta mère en EN tongs. Et là, elle a déjà une activité assez conséquente et tout. Comment ça se fait que tu choisis de faire un documentaire et pas de filmer, entre guillemets, une pièce de théâtre?
Ben, je l'ai filmé aussi, la pièce de théâtre, mais sur son projet spécifique, tu veux dire?
Oui.
Ben, c'est parce que la pièce en elle-même, elle est formidable et elle raconte beaucoup de choses, mais j'avais aussi envie de raconter le talent de ces gamins et le travail qui est incroyable et extrêmement nécessaire de la compagnie Ta mère en tongs, que je côtoie depuis 25 ans et qui font un travail vraiment fabuleux et artistiquement et auprès des jeunes et qu'ils accompagnent vraiment sur le long terme. Et de voir grandir ces enfants et de les voir prêts pour la vie avec des outils incroyables de travail, de persévérance, de tout ça, bah c'est un travail que j'avais envie de raconter et de mettre en lumière, en plus de ces jeunes, de mettre aussi en lumière le travail de ta mère entendue.
D'accord. Le documentaire s'appelle La Tzigane de Lord Stanley. C'est qui Lord Stanley?
Alors la pièce de théâtre s'appelle La Tzigane de Lord Stanley.
Ah oui, exact, pardon. C'est pour ma
Oui.
pomme. Exact.
Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu confusant. Mais la pièce de théâtre s'appelle La Tzigane de Lord Stanley et le film s'appelle La Tzigane sur la route avec ta mère en tongs.
D'accord, ok.
Et qui est Lord Stanley? Bah, c'est un des personnages clés de la pièce qui est un lord anglais qui voit s'installer sur son terrain une famille tzigane. Et voilà, donc il va y avoir un petit peu un rejet de la part des villageois et lui a très envie de les accueillir et il se trouve qu'il tombe amoureux d'une des filles de la famille tzigane. Un petit peu le
Est-ce que si je vois la pièce de théâtre, si je vois le film, je me dis c'est la même chose?
Ah bah non. Non,
Merci.
non, le film
Ouf.
le film s'appuie un petit peu sur la pièce bah parce qu'on peut pas raconter cette aventure sans mettre des extraits de la pièce, mais il ne raconte pas toute la pièce évidemment et surtout il raconte au-delà de la pièce, il raconte le travail de ses enfants, le travail de la compagnie, il raconte cette tournée incroyable, la rencontre avec les Queçaï de Chavée, la tournée en Slovaquie, enfin, il raconte beaucoup de choses autour de la pièce. La pièce, c'est un petit peu le point de départ. Mais non, non, les deux ont une existence propre et sont intéressants à différents niveaux.
Comment ça a été accueilli quand la pièce a été dans les bidonvilles Rome? Parce que c'est une pièce qui, enfin moi du documentaire j'ai pas vu la pièce, mais le documentaire que j'ai vu, il est quand même un peu fort, hein.
L'accueil est incroyable et pas que dans le bidonville. En Slovaquie, les gens étaient vraiment très emballé par la pièce. Et dans les bidonvilles, c'était, enfin, à Rakouzi, ça a vraiment été le point d'orgue de toute cette aventure parce que, dans les deux sens, les enfants, eux, jouaient leur spectacle devant les gens qu'ils racontaient dans la pièce. Et les Roms de Rakouzi, eux, bah, se voyaient sur scène, représentés par des enfants qui habitaient à l'autre bout de l'Europe. Donc c'était forcément un moment de rencontre vraiment fraternelle qui était assez beau à voir.
La plus grosse complication, ça a été?
Bah, d'organiser un voyage comme ça à l'autre bout de l'Europe, c'est toujours une aventure incroyable. Il faut rassembler les fonds, il faut encadrer. C'est pas évident à encadrer parce qu'il y a quand même 24 enfants qu'il faut emmener, dont il faut s'occuper, et donc c'est toute une logistique qui est assez faramineuse, mais auquel la compagnie est un petit peu habituée puisqu'ils avaient déjà ils avaient déjà eu des aventures comme ça un petit peu exceptionnelles, que ce soit au Mexique ou en Italie ou dans d'autres parties, mais là c'était de part aussi la barrière de la langue, c'était encore autre chose.
D'accord. C'était bien le Panthéon?
Le Panthéon, là on part sur la musique.
Ben,
C'est ça?
surtout avec un chanteur pas très connu.
Bah, tout à fait, pas très connu, non, mais peut-être qu'il va monter, c'est
Je pense,
qui
ouais.
sait.
Il a un futur potentiel, je crois.
Donc bah oui, c'est à quoi tu fais référence, donc Sting au Panthéon qui est un concert qui est visible sur Arte Concert que j'ai réalisé il y a quelques années maintenant et qui reste un des souvenirs incroyables de tournage, effectivement. Et au Panthéon, une deuxième fois d'ailleurs aussi, on a fait un beau programme en hommage à Nina Simone qui n'est peut-être plus visible sur Arte Concert d'ailleurs, mais qui aussi était aussi une autre belle aventure au Panthéon.
C'est marrant parce que ce sont deux univers qui sont quand même relativement différents, même s'il y a des points communs, mais ce sont des univers qui peuvent se compléter au cas où.
Oui, bah, il y a ce côté spectacle vivant, la musique, le spectacle vivant, il y a ce socle commun, bien sûr. Mais c'est vrai que même si les deux partent de spectacle vivant et les deux se filment avec des outils similaires, ça reste le documentaire et la captation, ça reste vraiment deux métiers pour moi. C'est deux métiers différents que je fais. C'est pas, il y a peu de commun dans la façon de travailler sur les deux. Mais c'est plaisant, les deux sont incroyables. Il y en a un qui est sur le long terme et l'autre qui est un peu plus éphémère.
D'accord. Si je te pose encore une question qui sort un peu de l'ordinaire, si je te dis Zorro El Zapato.
Et Zorro El Zapato, c'est le projet par lequel j'ai connu la compagnie Tamerlan. Donc c'est une pièce de théâtre. Donc sur le même principe que La Tzigane, les pièces de Tamerlan, donc écrites par Christine Pélican, qui est auteur et metteur en scène et qui a fondé la compagnie, elle part toujours d'un conte ou d'un mythe ou d'un personnage connu par tout le public. En l'occurrence, là, c'était Zorro. Et Zorro El Zapato reprenait le combat des Indiens zapatistes du Chiapas. Et donc c'est une pièce qu'elle a montée qui a commencé à tourner en 99, 2000, dans ces années-là. Et le sous-commandant Marcos avait entendu parler de la pièce et avait invité les enfants à venir jouer à Mexico. C'est-à-dire qu'en 2001, les Indiens zapatistes partaient des montagnes du Chiapas et descendaient à Mexico. Et ils s'arrêtaient de ville en ville pour défendre leurs droits et dire pourquoi ils se battaient. Et ils allaient jusqu'à Mexico. Donc c'est une grande marche pour la paix qui était en 2001. Et donc il a écrit à Tamerlan en disant, venez au Mexique et on se rencontre sur notre venue à Mexico. Et donc voilà, la compagnie, avec toute sa fougue et son énergie, organisait une tournée au Mexique qu'ils ont fait. Et ils ont rencontré et joué devant les commandants zapatistes à cette occasion-là. Et donc il y avait un reportage à l'époque sur lequel j'étais tombé avec ma sœur à l'époque. Et on a trouvé cette histoire et ce travail absolument fabuleux. Et donc on a eu envie de rentrer en contact avec eux. Ma sœur pour le côté un petit peu administratif puisqu'elle s'occupait de compagnie de théâtre à l'époque, et puis moi avec ma caméra et mon appareil photo, et on a voilà on est entré dans la famille et on n'en est jamais ressorti.
D'accord. Pour en finir, ce que j'ai adoré sur la principe de présentation de ce documentaire, La Digane, c'est quand on explique que tu as fait une véritable quête archéologique pour rassembler tous les images. Moi, je trouve ça génial parce que je me suis dit, oula, mais jusqu'où il est remonté?
Ben, alors c'est pas jusqu'où dans le temps, mais effectivement, comme il y avait vraiment, bah, j'étais devant, mais c'est vraiment toutes les images les plus diverses, des images de reportages télé, des images d'autres personnes qui avaient fait un documentaire, on parlait des Tranais tout à l'heure, ou des gens à l'intérieur avec leur téléphone portable qui filment un peu les répétitions pour l'apprentissage du slovaque, toutes ces images-là, bah effectivement, ça représentait presque une centaine d'heures de rush. Donc, qu'il faut éplucher, qu'il faut trier. Et c'est vrai que c'est un vrai travail patient, presque d'archéologie, effectivement.
Oui, parce que je me suis dit combien de temps il a fallu pour d'une part, comment dire, choisir les images, ensuite tout monter, pour en obtenir un documentaire qui ne fait, je tiens qu'à signaler, que 52 minutes quand même.
Oui, plus. Enfin, ça fait une heure, là, hein, avec le. Ça a été un peu rallongé. D'accord. Et puis il y a le bonus de fin. On est sur une heure. Mais effectivement, à l'origine, on avait plus imaginé qu'il puisse avoir une petite vie en télé. On s'est jamais dit qu'il pourrait aller au cinéma. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu formaté court comme ça. Voilà.
Ok, parfait. Bon, bah écoute, en tout cas, moi, je voulais te remercier d'avoir donné tous ces éléments. Si on veut retrouver le teaser, peut-être, ou un détail sur
le teaser est visible en ligne et aussi sur la page Allociné. Donc, il y a toutes les informations sur la page Allociné, sur toutes les salles et les dates. Vous pouvez retrouver le film. Mm-hmm. Vous pouvez aussi retrouver la bande-annonce. Voilà.
Vous tapez La Tigane, Sébastien Lefebvre, et là, vous aurez tout ce qu'il faut.
Exactement.
Merci à toi.
Eh bien, avec plaisir. Merci à toi.